Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur des sources. Je suis vraiment ravi d'ouvrir cette session d'exploration approfondie aujourd'hui. Notre mission, comme toujours, c'est de décortiquer un document unique, de le retourner dans tous les sens pour en extraire l'essence. Eh bien, je peux vous dire que pour cette fois, on a déniché une vraie pépite.
Ah oui, bonjour. Une pépite qui va certainement surprendre notre auditoire. C'est un document historique fascinant qui nous offre un éclairage complètement inattendu sur un sujet du quotidien.
Exactement. Alors, pour être tout à fait précis, notre source du jour est le numéro 46 du bulletin du Cartoclub Aveyronnais, un bulletin qui a été publié en juin 2010.
C'est ça. Et il s'agit d'un recueil vraiment remarquable. Il utilise des correspondances et surtout des cartes postales d'époque pour nous montrer la vie rurale sans aucun filtre, en fait. Mais pour respecter notre cadre d'analyse, on va se concentrer exclusivement sur un seul article de ce bulletin.
Oui, un article magistral qui s'intitule « Le port, pas à pas ». Et avant même de rentrer dans le vif du sujet, il faut absolument citer les artisans derrière ce travail. L'article a été rédigé par Jean-Pierre Crume. Il a réussi un tour de force en alliant une compétence historique pointue à un humour vraiment omniprésent.
Tout à fait. Et il ne faut surtout pas oublier le travail exceptionnel de Guy Mazard. Il est cité en tant que rédacteur en chef et concepteur de la maquette du bulletin. Leur collaboration met magnifiquement en valeur ces vieilles cartes postales.
Du coup, le but de notre discussion aujourd'hui, c'est de retracer la vie, l'histoire et l'impact culturel de cet animal. Un animal qui est très souvent incompris aujourd'hui.
Oui, l'objectif est d'offrir à ceux qui nous écoutent une perspective totalement nouvelle. On va voir comment le cochon, au-delà de l'aspect purement alimentaire, a occupé des rôles sociaux et même juridiques d'une complexité folle au fil des siècles.
Eh bien, plongeons tout de suite dedans. Dès les premières lignes de l'article, Jean-Pierre Crume met en évidence un paradoxe saisissant. Il cite l'historien Michel Pastoureau, qui utilise une expression très marquante. Il qualifie le cochon de « cousin mal aimé ».
On mentionne par exemple à Monteil, un historien avronnais du XIXe siècle, qui chantait déjà les louanges des jambons à Jacques. La chair du porc, c'était la base absolue de l'alimentation rurale.
Mais de son vivant, c'est une toute autre histoire en fait. L'animal est méprisé, couvert d'opprobre, toujours associé à la saleté. Et ce qui est fascinant, c'est que l'article nous montre que cette réputation de saleté ne vient pas de nulle part. Elle a une origine historique très concrète.
En effet, si on remonte au Moyen-Âge, la place du cochon n'était pas du tout dans des élevages lointains ou confinés. L'auteur explique très bien qu'il vivait en semi-liberté. Et pas n'importe où, en plein cœur des villes.
Des cochons en liberté dans les rues médiévales, ça donne une image assez chaotique.
Complètement. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de tout à l'égout ni de service de ramassage des ordures. Les rues étaient littéralement des cloaques à ciel ouvert où les habitants jetaient tous leurs déchets organiques. Et le cochon, il jouait le rôle des boueurs officiels.
Les boueurs attitrés de la ville, quoi.
C'est ça. Des troupeaux entiers erraient entre les maisons, fouinant et nettoyant les rues de tout ce qui pouvait être vaguement comestible. C'était un système de voirie très efficace, mais qui entraînait une promiscuité énorme avec les humains.
Et justement, l'article souligne que cette cohabitation extrême menait parfois à des drames. Le document relate une anecdote historique particulièrement sombre qui s'est déroulée dans les années 1300. J'avoue que ce passage m'a vraiment fait froid dans le dos.
Vous parlez de l'incident de Flanac, je suppose ?
Oui, tout à fait. L'auteur s'appuie sur les mémoires de Bosc. Et il raconte qu'en 1356, dans ce village de Flanac, une truie qui errait librement est entrée dans une maison. Et là, elle a mordu mortellement un enfant qui dormait dans son berceau. C'est une tragédie absolue.
C'est épouvantable, oui. Ça illustre bien les dangers terribles de cette semi-liberté. Mais ce qui est encore plus frappant dans ce récit, c'est la réaction de la société de l'époque face à ce drame.
Aujourd'hui, un animal dangereux serait immédiatement abattu pour des questions de sécurité publique. Mais là, pas du tout. Le texte décrit une procédure hallucinante. L'animal a été arrêté et formellement traduit en justice.
Exactement. L'affaire a été portée devant les juges de Conques. La truie a eu droit à un véritable procès. Un procès en bonne et due forme, exactement comme s'il s'agissait d'un citoyen humain. Elle a été reconnue coupable de meurtre et formellement condamnée à mort.
Et la méthode d'exécution n'a pas été laissée au hasard. La sentence précisait qu'elle devait être pendue par les pieds aux fourches patibulaires.
Les fourches patibulaires, c'était le gibet public, l'échafaud dressé sur la place du village, pour faire un exemple.
Pendue par les pieds. L'article donne une justification à ça, non ?
Oui, L'argumentaire des juges est fascinant de symbolisme. La justification légale était qu'un cochon, je cite, « regarde toujours à terre, jamais au ciel ». La justice de l'époque imposait une lecture purement morale et théologique à la posture naturelle de l'animal.
C'est vertigineux quand on y pense. Faire un procès à une truie, ça implique qu'on considère l'animal comme moralement responsable de ses actes.
C'est la clé pour comprendre la mentalité médiévale. La frontière entre l'humanité et le monde animal domestique était très poreuse. Les juger au tribunal, c'était les intégrer pleinement dans l'ordre social humain. C'était presque une relation d'égal à égal face à la loi. C'est une vision du monde qui a totalement disparu aujourd'hui.
Heureusement, après cette plongée dans la justice médiévale, l'article de Jean-Pierre Crum change de ton. Il devient beaucoup plus léger et nous emmène suivre la vie d'un porc de ferme classique, que l'auteur surnomme affectueusement « Cochounou ».
Oui, le ton devient très humoristique. L'auteur utilise ce personnage de Cochounou pour structurer son récit. Il lui invente même une généalogie très précise. Le père est un immense Vera de race Yorkshire qui s'appelle Pollux, et la mère est une matrone normande nommée Winnie.
J'ai adoré ce passage. Il décrit toute la phase de l'enfance de Cochounou. L'engraissement avec ses repas à base de petits laits, de bouillies, et surtout la hiérarchie brutale autour de l'auge où toute la fratrie se bat pour manger.
C'était la construction patiente du capital de la ferme. Mais l'article révèle ensuite une compétence très spécifique de notre ami le cochon. Il n'est pas qu'une simple ressource alimentaire. Dans des régions comme le Ségala ou le Périgord, il est l'artisan d'une quête très précieuse.
Ah, la fameuse recherche du diamant noir, la truffe.
C'est ça. Le cochon excelle véritablement dans ce domaine. Il possède un museau, un groin, dont la finesse olfactive surpasse infiniment celle du chien. Et pourtant, le chien est son grand rival historique pour le cavage, la recherche de truffes.
D'ailleurs, pour illustrer ça, l'article s'attarde sur une des fameuses cartes postales anciennes, une carte éditée par Salingard qui s'intitule sobrement « Chercheur de truffes du Ségala ». L'image décrite dans le texte est géniale.
Oui, on y voit une truie massive tenue en laisse par un humain. Et ce qui est drôle, c'est l'inversion des rôles.
Exactement. C'est la truie qui est la maîtresse absolue de la situation. Elle fouine, elle grogne, elle sait exactement ce qu'elle fait. Et l'humain derrière, ben, il suit, il est relégué au second plan, totalement dépendant du talent de son animal.
Dans ce contexte précis, l'animal gagne un statut de partenaire respecté. Il n'est plus du tout perçu comme de la future viande, mais comme un expert irremplaçable pour dénicher ce diamant noir si convoité par la gastronomie.
Mais bon, ce partenariat d'élite ne concerne qu'une toute petite minorité de l'espèce. Pour notre cochonou standard, la vie à la ferme se termine inévitablement par un départ vers la foire locale.
Le moment redouté de la séparation. L'auteur fait d'ailleurs un clin d'œil très amusant à la littérature classique à ce sujet. Il évoque la fable de La Fontaine où une chèvre, un mouton et un cochon voyagent ensemble dans le même char pour aller au marché.
Ah oui, juste.
Le cochon qui hurle à la mort pendant tout le trajet sentant que sa fin est proche, alors que la chèvre et le mouton voyagent dans un calme olympien parce qu'on ne veut que leur lait ou leur laine dans l'immédiat. C'est tout à fait ça. Une fois arrivé à la foire, c'est l'entrée dans le monde du commerce. Et l'article s'attarde sur une étape cruciale avant toute vente, le contrôle sanitaire de l'époque. C'est là qu'entre en scène un personnage particulièrement redouté, le langueur.
Ou le Langueshire en patois local. J'ai été fasciné par la description de ce métier. L'expert s'appuie sur une autre carte postale éditée par Douziech à Rodez qui s'intitule simplement « Le langueur ». Et la scène décrite tient plus du combat de lutte gréco-romaine que de l'inspection vétérinaire.
C'est le moins qu'on puisse dire. Le langueur devait garantir que la bête était propre à la consommation. Et la méthode était très rustique. Il renversait violemment l'animal sur le flanc, lui passait un gros bâton de bois dans le groin pour lui maintenir la gueule grande ouverte, et il lui tirait littéralement la langue à pleine main.
Mais pourquoi un tel acharnement spécifiquement sur la langue du cochon?
Il cherchait des traces de ladrerie. C'est une maladie causée par les larves du ténia, le ver solitaire. Ces larves forment de minuscules kystes ou pustules. Et la base de la langue, très irriguée, est l'un des rares muscles où l'on pouvait repérer ces kystes à l'œil nu sur un animal vivant.
D'accord, donc c'était une vraie question de santé publique.
Absolument. Si un humain consommait de la viande ladrée, il pouvait tomber gravement malade. Donc si après ce combat épique, la langue était nette, l'inspecteur déclarait solennellement « n'est pas ladré » et la vente pouvait se conclure.
Et une fois la vente conclue, on passe à l'étape finale et inévitable du parcours. L'article aborde avec beaucoup de respect le moment de tuer le cochon.
Oui, l'auteur parle de l'intervention de l'eau sagnière. c'était le spécialiste local, celui qui maîtrisait la saignée. Ce n'était pas un simple acte d'abattage caché dans un coin, c'était une véritable cérémonie rurale, un événement majeur qui rythmait la vie des campagnes.
L'article précise d'ailleurs que ça se déroulait généralement pendant la lune vieille de janvier. Le froid glacial de l'hiver était indispensable pour que la viande se conserve bien, bien avant l'invention de nos réfrigérateurs modernes.
Une grande carte postale des éditions d'art Yvon Paris, avec une photo de Jean-Louis Gonter, est citée pour illustrer cette fameuse mort du cochon. On ressent toute l'agitation. C'était une mobilisation générale de la famille et du voisinage.
Ce qui m'a le plus étonné, c'est l'éthique de cette pratique. Dans cette culture paysanne, la mort de l'animal imposait un respect absolu qui se traduisait par la règle du zéro déchet. L'expression « tout est bon dans le cochon » prenait tout son sens.
Rien, absolument rien, n'était jeté. Au-delà des jambons et des saucisses classiques, l'article liste des récupérations incroyables. Par exemple, les poils et les soies de l'animal étaient soigneusement récoltés pour fabriquer des brosses très résistantes.
Et la médecine de l'époque s'en mêlait aussi. Le fiel, la bile du cochon, était conservé précieusement parce qu'on s'en servait comme remède miracle pour soigner les plaies ou les panaries rebelles.
Une véritable pharmacie naturelle.
Mais le plus insolite, c'est le destin de la vessie du porc. Le texte explique qu'elle était vidée, nettoyée, puis gonflée avec une simple paille de seigle pour être mise à sécher. Ensuite, elle devenait une blague à tabac parfaitement étanche, et parfois on mettait quelques pois secs à l'intérieur pour la transformer en instrument de musique burlesque pour le carnaval du village.
C'est l'ingéniosité rurale poussée à son paroxysme. Cependant, l'article de Jean-Pierre Crum montre que cette époque artisanale de subsistance a fini par disparaître. Le texte fait un pont très net vers le XXe siècle et l'ère de la révolution industrielle.
Une transition assez brutale, oui. Comment on passe de cette cérémonie rurale hivernale à la production de masse ?
Le grand tournant, c'est l'invention de l'apertisation. Le fait de pouvoir mettre la viande en conserve stérile, ça a permis de nourrir les villes grandissantes et les armées sans dépendre du froid hivernal pour la conservation. L'auteur prend l'exemple frappant de Léopold Calmels.
Ah oui, Léopold Calmels. L'article mentionne qu'il a créé les établissements Aveyronnais à Villefranche-de-Rouergue en 1923.
C'est ça. Et là, le changement d'échelle est radical. L'iconographie change complètement. Les cartes postales de l'époque ne montrent plus de petits paysans, mais deviennent des outils de communication industrielle.
L'article décrit des vulusines avec des dizaines d'ouvriers en blouse blanche. Il y a même une carte qui montre une trentaine de travailleurs prenant leur petit déjeuner collectivement au sein de l'usine. On est passé de l'artisanat de quartier à l'armée ouvrière.
L'anima est devenu une pure matière première. Il entre d'un côté de la chaîne et ressort de l'autre sous forme de milliers de boîtes de conserve anonymes. C'est l'industrialisation totale de notre rapport au vivant.
C'est une sacrée évolution. Mais avant de conclure, je veux absolument qu'on aborde la dernière partie de l'article, qui est peut-être la plus drôle. L'auteur explore comment le cochon est devenu la star de l'humour cartophile.
Les cartes postales humoristiques, oui. Nos ancêtres avaient un sens de la satire très aiguisé. Et l'auteur introduit cette section avec une statistique historique complètement folle, calculée par le très sérieux ingénieur Vauban.
Le fameux maréchal de Vauban. Qu'est-ce qu'il allait faire avec des cochons, lui ?
Chonnerie. Il avait calculé qu'une seule et unique truie, vivant 13 ans, pouvait théoriquement avoir une descendance potentielle de plus de 6 millions d'individus.
6 millions de descendants pour une seule truie. C'est absurde et fascinant en même temps. Et avec une telle omniprésence démographique, normal que l'animal envahisse la publicité. Il y a une carte publicitaire de la marque Michelin, décrite dans l'article, qui est un chef-d'œuvre de cynisme.
Ah, la fameuse carte Michelin. Le slogan annonce d'emblée la couleur « Parisien, un scandale. Réclamez l'égalité de traitement ».
Visuellement, la description est hilarante. D'un côté de l'image, on voit des cochons bien gras, tranquillement installés dans des camions flambant neufs pour aller à l'abattoir. Et ces camions sont équipés des merveilleux pneus Michelin, donc les cochons voyagent dans un confort absolu.
Et de l'autre côté de la route ?
De l'autre côté, on a de malheureux citoyens parisiens entassés dans de vieux bus municipaux, équipés de roues à bandage plein, sans aucun amortisseur. Ils sont secoués dans tous les sens pendant que les cochons les narguent depuis leur camion grand luxe.
C'est de l'humour noir brillant. Les publicitaires utilisaient la figure animale pour dénoncer l'absurdité sociale de l'époque. Les condamnés à mort bénéficiaient du summum de la technologie routière pendant que les honnêtes travailleurs souffraient dans les transports en commun.
Nos ancêtres maîtrisaient vraiment le clash publicitaire. Bon, il va falloir penser à résumer tout ça.
En parcourant cet article magistral du Carto Club à Vérona, notre perception de cet animal a complètement changé. On a vu le nettoyeur des rues médiévales jugé au tribunal, l'expert truffier respecté du Ségala, la bête brutalisée par le longueuilleur aux foires. Et on a suivi sa transformation de la ressource vitale de la ferme traditionnelle, où pas un poil n'était perdu, à la matière première standardisée de l'industrie de la conserve.
Et toute cette évolution nous pousse finalement vers une réflexion beaucoup plus large, une pensée qui résonne fortement aujourd'hui.
Laquelle ?
En observant les sociétés du passé, on remarque que leur relation avec le cochon était directe, extrêmement frontale, parfois très violente, mais paradoxalement empreinte d'une forme de considération. Le fait d'organiser un procès moral, ou la volonté obsessionnelle de ne gaspiller aucune partie du corps lors du tue-cochon, tout cela témoignait d'un lien viscéral avec l'animal qui les nourrissait.
Une forme de respect brut, en fait.
C'est exactement ça. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est « Notre système alimentaire moderne, qui est incroyablement efficace et aseptisé, ne nous a-t-il pas fait perdre ce respect profond ?» En transformant l'animal en un produit industriel anonyme, en barquette, nous avons peut-être rompu un lien fondamental, une compréhension de ce qu'est réellement notre subsistance. C'est une invitation forte à repenser notre rapport au monde agricole contemporain.
C'est une réflexion très puissante qui donne une profondeur inattendue à de simples cartes postales anciennes. Le passé a décidément le don d'éclairer notre présent sous un jour nouveau.
Absolument.
Eh bien, il est temps de refermer les pages de cet article passionnant de Jean-Pierre Crume et du bulletin du Carto Club Aveyronnais. Nous espérons que cette plongée dans les archives a attisé la curiosité de notre auditoire et suscité de nouvelles pistes de réflexion. Un grand merci d'avoir partagé ce moment avec nous. À très vite pour une nouvelle exploration au cœur des sources dans The Deep Dive.